16h47, voici venu le moment du bullshitomètre. Chaque jour, effectivement, un expert de marché vient déconstruire une idée reçue, un préjugé de marché un peu trop facile. Christian Bitteau aujourd'hui est avec nous, professeur de finance à l'ESSEC. Bonjour Christian.
Bonjour.
Bienvenue. Le Japon est le pays dont la population est la plus âgée au monde. Le Japon, c'est donc has-been aussi en bourse. Vous n'êtes pas d'accord avec cette idée, vous dites même bullshit. Vous foudroyez. Cette idée que le Japon en bourse, on s'en fiche. Pourquoi croyez-vous, vous, que le Japon doit rester prioritaire dans les portefeuilles?
Mais c'est vrai que ça fait très longtemps, bonjour à tous tout d'abord, ça fait très longtemps qu'on ne parle plus du Japon. Depuis quelques mois, ça reprend heureusement le devant de la scène pour deux raisons. La première, qui est vraiment fondamentale parce qu'elle nous intéresse tous, c'est la croissance économique. Je pense que nous sommes tous d'accord que si nous rentrons en période de récession, ce qui était le risque l'année dernière, ça serait pas bon du tout pour nos placements financiers, pour la bourse, comme pour l'économie, comme pour ce qui se passe en France. Or, l'année dernière, quand on regarde comment la croissance économique mondiale s'est créée, on a bien entendu en tête toujours encore la Chine, même si c'était un peu plus faible, à 5%. On a, en termes de progression, les États-Unis qui ont agréablement surpris à plus de 2,5% de croissance économique. Et tout de même, parce qu'on l'oubliait, parce qu'elle était à taux, on est proche de 0%, le Japon qui s'est enfin réveillé avec une croissance économique qui, l'année dernière, a atteint plus 2%.
Ah oui.
Ça, c'est pas trop mal. Et c'est la troisième puissance économique mondiale. Bien sûr, c'est loin derrière les 20 000 milliards de dollars des États-Unis, mais avec à peu près 4 500 milliards de dollars de PIB, c'est la troisième puissance économique mondiale, puisque l'Allemagne a rétrogradé d'un cran. L'Allemagne, ça va mal. C'est même passé plusieurs mois en négatif l'année dernière. Donc, on a bien eu besoin de ce moteur japonais pour ne pas sombrer dans la récession l'année dernière. Et pour 2024, idem. Aujourd'hui, qui est en tête? Eh bien, États-Unis, Chine, même si ça ralentit à 4,5%, et le Japon prévoit encore plus de 2% de croissance.
Donc, bonne santé de l'économie japonaise, et ça se traduit dans les performances boursières depuis plusieurs mois maintenant.
Ah ben, c'est impressionnant. Depuis le début de l'année, on est à plus de 22% de performance. Sur un an glissant, on est à 47% de performance. Ça y est, c'est presque mieux que le Nasdaq. Ça se réveille enfin, ce qui se passe au Japon, et c'est assez impressionnant.
Sauf que la semaine dernière, le Japon a monté ses taux, donc début de resserrement monétaire. Donc
ça, c'est le deuxième point. C'est le deuxième point qui nous concerne aussi, donc il ne faut surtout pas négliger. C'est vrai que la Banque du Japon a relevé ses taux d'intérêt. Alors, ça n'est pas ce qu'a fait la Turquie, qui a relevé ses taux d'intérêt, vous le savez, à plus 50% par an de taux d'intérêt. Mais enfin, eux doivent lutter avec une inflation galopante à plus 70%, ça n'a rien à voir. Non, Monsieur Ueda, le patron de la BOJ, Nichijin, pour les intimes, pour le nom de la banque japonaise, a relevé ses taux.
Très bien japonais, comment on prononce
Nichijin, je crois. Nichijin.
Je ne parle absolument pas bien japonais, c'est mon épouse qui parle très bien japonais.
Ueda, je pense que c'est un nom qui ressemble à un nom de ministre. Je pense que Ueda, on sait bien le prononcer, ça ressemble à un nom de ministre en France. Mais... Oui. Alors, il a relevé ses taux, alors c'était tout de même assez exceptionnel. Ça fait depuis 2016 que les taux japonais étaient à moins 0,10%. C'est-à-dire que l'argent était gratuit pour essayer de relancer enfin cette croissance économique japonaise. Et puis ça a fonctionné l'année dernière, puisque je vous ai donné les chiffres, enfin une croissance nettement positive au Japon. Puis là, il a décidé de les relever de moins 0,10 à plus 0,10%. Alors, c'était normal, il y a une inflation qui commence à se rapprocher des 2,8%, preuve que ça démarre bien au Japon. Il y a des syndicats qui demandent des hausses de salaire à plus 5% dans certains grands groupes, mais ça aurait pu être absolument catastrophique parce qu'on oublie de parler d'une technique de gestion très pratiquée à la City, qui est vraiment la position numéro 1 de ce qu'on appelle les hedge funds, les gestionnaires spécialisés dans les prises de levier, qui s'appelle le yen carry trade. Alors, un instant pour l'expliquer, le yen carry trade, le célèbre yen carry trade, pour les spécialistes, c'est pas si compliqué que ça. En fait, le principe, c'est une position spéculative qui peut être très risquée. C'est simple, j'emprunte en yen. Ah, avantage, j'emprunte en yen à 0%, même j'empruntais jusqu'à la semaine dernière à moins 0,10%. Ensuite, je convertis mes yens pour acheter des dollars. Et je vais aller acheter des bons du Trésor américain. Bons du Trésor américain qui sont depuis 2 ans maintenant à plus de 5%. Et donc, on touche le différentiel entre le coût de l'emprunt et le rendement du placement. Et puis à la fin, les bons du Trésor à 3 mois arrivent à échéance, on récupère des dollars, on les convertit en yens et on a fait une très belle opération. Le risque, bien évidemment, c'est qu'au moment de la conversion, et je crois que quelques collectivités territoriales en France dans les années 80 ont goûté à cet énorme risque. Le risque, c'est que quand il faut rembourser l'emprunt, si le yen a remonté, On peut avoir des pertes infiniment plus élevées que l'écart de taux d'intérêt sur 3 mois entre des taux à 0% et des taux à 5%. Je vous épargne le calcul, mais ça peut faire très mal. Ouais. Et donc, on a eu très peur la semaine dernière. D'ailleurs, quelques heures avant l'annonce, le yen d'un seul coup s'est mis à remonter violemment. Et donc, s'il remonte violemment, ça peut créer la panique chez les gestionnaires spéculatifs. Ce sont des positions à levier très spéculatives, ouais. Bien entendu. Et à ce moment-là, ils rapatrient immédiatement leurs capitaux, ils rachètent du yen, ça fait remonter le yen. Et on enclenche un affolement sur les marchés. Alors, on considère que ces positions en yen carry trade pèsent plusieurs trillions de dollars. Je n'arrive pas à voir le chiffre exact. On sait que le volume de transactions annuel est de l'ordre de 20 000 milliards de dollars. Quel est l'encours ? Je n'ai pas le chiffre exact, puisque ce sont des positions donc hors bilan des hedge funds, principalement des hedge funds sur la place de Londres, de la City, mais ça veut dire que tout cet argent représente beaucoup d'argent investi dans la dette américaine. Principalement. Donc cela fait baisser les taux d'intérêt aux États-Unis. Et quand les taux aux États-Unis restent bas, ce qui se passe finalement depuis 2023 par rapport à l'inflation, depuis 2022, eh bien nos taux d'intérêt, nous en zone euro, restent bas aussi. Donc on a eu très très peur. Et puis alors, je ne sais pas pourquoi, c'était dans les propos de M. Oudéa, il a dit on relève nos taux, mais maintenant on va marquer une pause. Ça suffit par rapport à l'économie japonaise.
Donc les gens sont dit, ça a permis
avec des taux
feu.
À 0,10, des taux des bons du Trésor à 5%, ça a éteint le feu. Le yen a à nouveau rebaissé. Et les spécialistes disent que les opérations d'Yen Carry Trade ont repris. Et tout ceci nous apporte de l'argent qui fait baisser les taux. On en a bien besoin aux États-Unis et en zone euro.
D'accord, mais ça plaide aussi pour le marché japonais, là, ce que vous venez de me dire, cette technique financière ou pas? Parce que l'idée que vous venez soumettre à nos auditeurs et téléspectateurs, c'est que le Japon, c'est pas has-been, malgré une démographie quand même déclinante, au point que, Christian, je vais vous ramener à des considérations très terre-à-terre, on va parler de couches pour bébé, mais pas que pour bébé. Le principal, natalité catastrophique au Japon, le principal fabricant de couches au Japon a tout à l'heure annoncé qu'il cessait de fabriquer des couches pour les bébés, mais il va continuer à fabriquer des couches.
Pour les adultes.
Voilà où on en est au Japon.
Vous en remettez une couche. Je crois que c'est une société qui s'appelle Oji Holding, qui est vraiment le Pampers au Japon. Effectivement, ils ont tout le marché japonais. C'est une nouvelle, un peu anecdotique, mais importante pour cette société.
Croissance et démographie. Alors,
c'est vrai que le Japon est tout de même à le record. Maintenant, c'est la population la plus vieille du monde. La moyenne d'âge est supérieure à celle du Rocher de Monaco. C'est effectivement impressionnant. Le taux de renouvellement, ce qu'on appelle le taux de fécondité, de natalité des femmes japonaises, se rapproche de 0,6, le record de la Corée du Sud. Nous, on est encore à 1,6, 1,68 à peu près, mais on sait que pour qu'il y ait une expansion démographique, il faut qu'on soit proche de 2, voire 2,10%. En fait, quand on regarde la carte du monde, plus personne ne l'a. C'est-à-dire que même les États-Unis ou l'Allemagne ou la France, enfin tous les pays sont en dessous de ce chiffre magique de 2, le taux de fécondité des femmes, pour qu'il y ait une expansion de la population. Toutes les populations mondiales vieillissent, sauf l'Afrique. Alors l'Afrique, c'est peut-être pas encore assez bien organisé pour que le joue économiquement ou financièrement sur les marchés, mais à la limite, on peut dire que le Japon vieillit, mais nous vieillissons aussi. C'est peut-être une des raisons fondamentales qui explique que depuis 2019, les taux d'intérêt soient passés négatifs en France, qu'on ait des taux toujours aussi bas. Parce que même encore aujourd'hui, avec une inflation qui est à 2-3%, on parlera certainement de ce sujet tout à l'heure, les taux d'intérêt sont tout de même très bas. En France, on a des taux à 2,80% à 10 ans. Mmh. Sommes-nous sûrs que l'inflation sera part de l'ordre de 2 à 3% à 10 ans. C'est d'ailleurs l'objectif de la Banque centrale. Ça veut dire que les vrais taux, ce qu'on appelle les taux réels, au-delà de la perte de pouvoir d'achat, sont toujours historiquement bas, parce que c'est un comportement d'épargnant vieillissant, d'acheter des obligations, et alors très vieillissant au Japon, surtout qu'il n'y a pas de système de retraite, ni redistribution, ni capitalisation. Le Japonais se crée sa retraite, et pour se la créer, naturellement, il achète des obligations, ce qui tient les taux très bas. Et ces taux très bas,
c'est intéressant pour eux parce
par
que
contagion, ils tiennent, pas chez nous.
Ils tiennent leur dette. C'est-à-dire que nous, une grande partie de notre dette est détenue à l'international. Les Japonais, eux, détiennent une grande partie de leur dette. Justement,
oui,
par ce phénomène
que vous décrivez.
Ça, c'est une force supplémentaire pour le Japon, a priori. Ouais.
C'était le sujet d'actualité politique cette semaine. Le Japon est beaucoup plus tranquille parce qu'ils détiennent leur dette. Ça leur permet d'avoir le ratio de dette sur PIB 221% en fait, de dette par rapport au PIB. Et ça tient très bien. Et ça n'empêche pas le pays de redémarrer. Parce que nous, on considère toujours aujourd'hui qu'il y a un fort coup d'accélération au Japon.
Julien, vous voulez dire un mot sur le Japon, un mot
Oui,
sur
non, mais juste parce que là, la question, c'est pourquoi le Japon bondit et pourquoi ça devient attractif. Il faut aussi voir que derrière la macroéconomie qu'on a évoquée, il y a un coup d'accélérateur qui est mis par les régulateurs boursiers pour que les entreprises japonaises elles prennent des mesures pour améliorer leur gouvernance et le retour aux investisseurs. Ça, c'est un facteur très important.
Et puis, autre thème d'actualité qui sera peut-être développé tout à l'heure, on n'arrête pas de parler du déficit budgétaire. Ah, c'est la grande mode en France, Monsieur le maire a pris l'initiative.
Pire au Japon qu'en France.
Au Japon, mais en fait, si on fait un tableau très simple, hein, la meilleure prévision économique, le déficit budgétaire, le taux de croissance économique. Je vous l'ai dit l'année dernière, mine de rien, la Chine était tout de même la première croissance économique. Déficit 7,4%. Le Japon, reprise de la croissance économique, déficit 6,2%.
Plaidoyer pour le Japon et l'investissement au Japon. Non, c'est pas has-been le Japon, malgré une démographie sacrément déclinante, effectivement, c'est impressionnant. Le taux de natalité est au plus bas historique d'ailleurs sur l'année 2023 au Japon, plus bas depuis le début des statistiques en 1899. Malgré tout, en bourse, le Japon est fécond. Christian, vous restez avec nous, vous nous accompagnerez dans le club dans un instant après la pause. On remercie toute la famille. Julie.
Merci Guillaume.
Salut Julie, à demain pour de nouvelles aventures. Et Julien Marion, les équipes web BFM Bourse. Cet article aussi consacré à Atos. On n'en a pas parlé d'Atos, mais Atos recule aujourd'hui. L'article est consultable sur bfmbourse.com.